Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, ça...
On ne fait pas un procès d'un jeune musulman. C'est sa situation, et moi je la respecte. Ce que je veux, c'est qu'il se sente français lorsqu'il est français. Ce que je veux, c'est qu'il aime la France lorsqu'il vit dans ce pays. C'est qu'il trouve un travail. C'est qu'il ne parle pas le verlan. C'est qu'il n'ait pas sa casquette à l'envers.
Question de la mixité. Ça n'est pas la même chose des groupes de femmes qui se réunissent entre elles pour parler du viol. Et des associations qui demandent des gymnases pour organiser des terrains, des tournois de basket réservés aux femmes, voilées, pour en plus lever des fonds pour le Hamas.
Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 5 ou 6 millions de musulmans en France. C'est vrai que l'accroissement du nombre de fidèles de ces religions, un certain nombre de comportements, pose problème.
Toutes les civilisations ne se valent pas. Exemple, lorsque se pose la question de l'interdiction du voile intégral.
Les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux.
C'est le teaser que les Indivisibles avaient organisé et avaient fait sur leur site internet pour annoncer la 4e cérémonie des Yabon Awards. Alors, les Yabon Awards avaient lieu le 19 mars dernier. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les Indivisibles étaient passés d'ailleurs sur ce plateau en 2010 pour nous raconter un peu ce qu'ils faisaient et ce qu'étaient les Yabon Awards. Et en tout cas, ce groupe et organise cette cérémonie qui est une fausse cérémonie du pire des préjugés raciaux avec des catégories parfois un peu amusantes puisque le but des Indivisibles c'est de déconstruire notamment grâce à l'humour et l'ironie les préjugés raciaux et donc il y a des catégories genre le bruit et l'odeur, la France tu l'aimes ou tu la quittes, les envahisseurs, il y avait eu à un moment les Éric avec évidemment nos chers amis Éric Zemmour et Éric Besson, il y avait aussi Touchez pas mon pote raciste avec Fadela Mara qui avait quand même fortement gagné parce qu'elle défendait quoi qu'il arrive Guéant et compagnie. Et alors, cette année, une des nominées, c'est celle qui a fait le plus parler d'elle, c'est Caroline Fourest. Alors, Céline, Caroline Fourest, elle était dans la catégorie des experts chroniqueurs. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus?
Ouais, parce que Caroline Fourest, donc, elle s'est érigée, en fait, en pourfendeuse de tous les intégrismes, et en fait, surtout de l'intégrisme musulman, bizarrement. Et elle a fait de la laïcité sa religion et elle défend farouchement la liberté de penser comme elle. Elle officie tous les vendredis sur France Inter, tous les vendredis matin, où elle présente une chronique hebdomadaire. Avant, elle faisait la même chose sur France Culture. C'était aussi une chronique hebdomadaire. Elle écrit tous les week-ends une chronique dans Le Monde qui s'appelle Sans détour. Elle a été pendant 4 ans à Charlie Hebdo. Elle a enseigné à Sciences Po. Elle intervient régulièrement à Ce soir ou jamais.
Danser dans l'air.
Danser dans l'air, sur France 3, dans Des paroles et des actes, sur France 2 aussi. Et puis elle a écrit pas mal de bouquins finalement depuis le temps.
Ah oui, elle fait des documentaires aussi. Elle a fait des documentaires dont certains peuvent être assez intéressants. Elle en a fait en tout cas sur la jeunesse de Marine Le Pen qui valait le détour.
Alors du coup, ouais, elle a écrit des bouquins effectivement sur le FN, et puis elle a écrit, ça c'était avant, bon elle a écrit cette année un bouquin sur Marine Le Pen, mais avant 2003, elle avait écrit sur, je crois, le financement du FN, et puis à partir de 2003, elle s'est mise à s'intéresser vraiment aux intégristes, mais particulièrement à l'islam, donc d'abord avec un bouquin qui s'appelle « Tir croisé », et puis ensuite avec un livre en 2005 qui s'appelait « La tentation obscurantiste » qui lui a valu en 2006 le prix du livre politique qui est un prix, alors d'abord c'est 5 000 euros, Et puis, ça lui a été remis par Jean-Louis Debré. Et pour indication, c'est un prix qui, en 2011, par exemple, a été remporté par Jean-Pierre Chevènement.
La classe, après Jean-Pierre Chevènement, Caroline Fourest.
Alors, c'était avant, du coup. Mais ouais, la classe intégrale. C'est donc assez significatif du type de livre qu'elle écrit et du type de public aussi qui apprécie ses livres, puisque quand même ce prix est censé récompenser le meilleur ouvrage à caractère politique de l'année écoulée, rien que ça. Et donc ce prix avait fait l'objet d'une tribune dans Le Monde qui s'appelait « Les lauriers de l'obscurantisme » écrite par Jean Bobéraud et d'autres sociologues et chercheurs qui dénonçaient justement l'attribution de ce prix à Caroline Fourest pour toutes les approximations contenues dans l'ouvrage.
Cette année, justement, elle a eu un prix, mais un prix dont elle se serait bien passée. D'ailleurs, elle n'a pas été le chercher, elle n'est pas venue chercher sa banane en or. C'est donc le prix des Yamon Awards dans la catégorie les experts chroniqueurs, hein, parce que chacun sa catégorie. Et donc, on va vous passer le petit son pourquoi elle était nominée. Donc, allez, Caroline.
Question de la mixité, ça n'est pas la même chose des groupes de femmes qui se réunissent entre elles pour parler du viol et des associations qui montent des gymnases pour organiser des tournois de basket réservés aux femmes, voilées, pour en plus lever des fonds pour le Hamas.
Et ouais, les associations musulmanes avec plein de femmes voilées qui font du basket financent le Hamas en France, c'est un fait. L'étude a été faite et donc elle a reçu ce prix comme experte chroniqueuse, hein, parce que c'était quand même... Alors ce qui est assez amusant, c'est que ses propos ont été tenus en tant qu'experte dans une conférence du Parti Socialiste.
Une convention PS, oui.
Convention du PS.
Sur l'égalité, oui.
Sur l'égalité. Et donc, ce prix, évidemment, elle l'a peut-être accueilli avec moins de fierté que le précédent, j'imagine.
Oui, alors elle ne l'a pas accueilli très, très bien. Elle a même plutôt accueilli assez mal, puisque pour la première fois, en fait, une des personnes récompensées par un Yabon Awards a décidé d'attaquer en justice l'association qui organise les Yabon Awards, donc les Indivisibles, et les membres du jury. Donc pour mémoire, les membres du jury, c'était Florence Aubenas, Jean Bobéraud, Abdelkrim Branin, Sébastien Fontenelle, Faïza Guen, Nassira Guenif, Olivier Lecourt-Grandmaison, Jalil Lesper, Alain Mabankou, Assa Maïga, Frédéric Martel, Mokobé, Maboula Soumaoro et Youssoufa. Et donc Caroline Fourest en fait a publié une tribune sur son blog qui est très grandiloquente. Elle s'est drapée dans son manteau de pourfendeuse de tous les intégrismes et donc elle dit des choses comme me remettre ce prix ce soir-là, celui de la tragédie de Toulouse, pour une phrase où je critique le soutien à des groupes extrémistes et antisémites, enfin, etc., etc. Le pire est de savoir que Rokhaya Diallo a pu trouver des complices pour commettre son forfait, donc c'est un forfait, de lui avoir remis ce prix. Et elle dit aussi, mais ces gens-là, toujours les mêmes, les réseaux indigénaux, ramadanaux, bonifaciens ne me font plus rire.
Eh ouais, les islamo-gauchistes sont là, ils sont parmi nous, il faut faire attention.
Exactement, et bientôt, donc elle pense que la prochaine étape pour eux, c'est de payer le ticket de bus à ceux qui rêvent de m'emmener en forêt pour me bâillonner ou me lapider. Donc ça, elle fait référence au cadre du FN qui aurait menacé, qui aurait formulé cette menace. Donc c'est d'autant plus, ça paraît d'autant plus disproportionné quand on connaît quand même la position des Indivisibles et puis notamment, enfin, ce qu'ils expliquaient très bien quand vous les aviez reçus en 2010. Où ils disaient que, enfin, c'était pas du tout, enfin, ils se drapaient pas du tout dans une bonne conscience, que c'était pour déconstruire les préjugés qui étaient ancrés en chacun de nous, et puis que c'était pas pour stigmatiser une personne en tant que telle,
mais c'était les propos, quoi. Exactement.
Donc, donc ça paraît totalement disproportionné comme façon de prendre les choses.
Mais les propos qu'elle a tenus, en fait, quand on regarde un peu tout ce qu'elle a fait, puisqu'en fait, elle travaille énormément comme sérielle chroniqueuse et comme grande experte chroniqueur, elle travaille quand même dans énormément de presse, énormément de télévision, et elle aurait eu beaucoup d'autres occasions finalement de la voir, parce qu'on a un peu regardé quelques propos qu'elle avait tenus avant, qui sont des propos sur les mêmes thématiques, hein, on s'en est tenu à ça. Par exemple, là, sur l'histoire des mairies qui sont beaucoup trop sympathiques avec... avec les associations musulmanes sur le plateau de France 5, un plateau sur une... Je précise quand même le nom du programme de l'émission qui s'appelait Tension communautaire. Tension communautaire, et donc Caroline Forest était l'experte en communauté. Et nous avions en face d'elle le maire de Sarcelles, donc qui est François Pipponi. Et alors, c'est à ce moment-là que Caroline Forest lui expliquait comment ça se passait dans son conseil municipal.
J'ai un problème uniquement quand le culturel est confondu avec du religieux, mais surtout quand le religieux est confondu avec de l'idéologique liberticide et réactionnaire.
Je suis d'accord.
Donc aujourd'hui, quand vous me dites que les maires ne peuvent pas sélectionner les associations qu'ils favorisent ou qu'ils ne favorisent pas, c'est pas vrai. Tous les maires, et c'est ça la politique locale, d'ailleurs c'est essentiellement ça la politique locale, pour un maire, consiste à sélectionner les associations que l'on soutient, que l'on subventionne, à qui on prête des salles, et les associations qu'on considère ne pas être un plus pour le vivre ensemble, et à qui on ne va pas faciliter le prosélytisme et la propagande. Or aujourd'hui, il y a des maires qui ne sont pas au clair avec quelle association est intégriste ou pas. Et je vous donne juste un exemple, monsieur le maire, quand je vois des élus de gauche, et je pense en l'occurrence à Sarcelles, qui dans leur conseil municipal acceptent des femmes qui portent perruques, qui ne servent pas la main aux hommes, parce qu'il y a beaucoup d'orthodoxes représentés dans une commune.
Vous sortez ça d'où ?
Il n'y a personne dans votre conseil municipal qui est dans ce cas de figure ?
Ah, qui, moi, j'ai toutes les conseils municipales me serrent la main, hein.
Bah écoutez, il y a des gens, alors,
ah, sûrement de vos oppositions, hein.
Non, il y a des noms, etc.
Mais, alors, tant mieux. Par contre, il y a autre chose.
Je vous pose la question.
Il y a autre chose qui a choqué. Il y a effectivement un membre de la communauté juive qui met la kippa dans la salle du conseil municipal. Certains ont demandé à ce qu'on lui enlève la kippa.
Mais est-ce qu'il est obligé de le porter dans l'enceinte du conseil municipal ?
C'est pas ça. Le juif considère qu'il doit porter la kippa tout le temps. Est-ce qu'on va lui obliger à enlever la kippa parce qu'il rentre au conseil municipal ? Est-ce que c'est ça aussi une république laïque tolérante ?
Le
juif pratiquant doit porter la kippa, comme le chaldéen ou le chrétien qui porte la croix au conseil municipal.
Oui, alors là, le cut est un peu rapide, comme on dit. Mais donc, c'était un extrait d'un petit débat sur les tensions communautaires qui était sur France 5, dans C'est dans l'air. Et alors, on voit bien que là, sur le coup, il y avait quand même le maire de la ville qui mettait à mal les propos de Caroline Forest sur son propre conseil municipal. Et puis il parlait de tous les problèmes d'habillement dans les conseils municipaux.
Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle dit, oui, j'ai plusieurs exemples, par exemple, enfin cet exemple-là,
oui.
Puis en fait, on a l'impression que du coup, son raisonnement fonctionne juste par induction à partir d'un exemple unique, et que bon, à partir de ça, elle fait une généralisation, et que quand ça tient plus, en fait, elle n'a pas vraiment d'autres... Enfin voilà, c'est juste, elle avait ce cas-là qu'elle a érigé en exemple.
Ah ben moi d'ailleurs j'ai un exemple, hein. J'ai un exemple qui est Philippe Grenier, qui est un député musulman, qui est le premier député musulman de France, c'était en 1898, et il était à l'Assemblée nationale avec en keffieh et en costume traditionnel des années 1890. Alors je ne suis pas très très forte dans le costume traditionnel algérien des années 1890, mais en tout cas, il n'y avait aucun problème à l'époque, et ça passait dans l'Assemblée républicaine de cette époque-là. Donc c'est quand même, il y a la tendance à extrapoler d'une manière assez étonnante. Et on peut voir ça dans d'autres médias, puisque par exemple, sur France 24, dans une émission qui s'appelle « Les débats de France 24 », elle parlait de la justice, parce que là, on est venu à parler des associations musulmanes, des mairies. Maintenant, allons voir du côté de la justice et des palais de justice.
En particulariste et communautaire. Alors, notamment, il y a une décision qui, moi, me paraît beaucoup plus grave du point de vue du différentialisme culturel que celle-ci. C'est la Cour d'appel de Paris en 2005 qui a refusé qu'un homme soit incinéré, alors que ses enfants le voulaient, et que lui-même, visiblement, avait manifesté sa volonté d'être incinéré, et que sa veuve voulait qu'il soit enterré selon le rite musulman. Je suis athée, j'ai envie d'être incinéré, et le tribunal l'a refusé après sa mort. Là, pour moi, on est dans une forme de relativisme et de différentialisme qui n'est pas très sain, d'autant que je parlais avec une avocate spécialiste des violences conjugales et qui me disait, alors c'est une spécialité des magistrats conservateurs catholiques, ils ont une tendance à considérer que tout ce qui vient des musulmans est extrêmement exotique et à faire du deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'un mari violent qui bat sa femme s'il est de culture musulmane...
Enfin, on retrouve les bonnes vieilles traditions.
Ils font plaisir sur le dos d'une minorité. Quasiment, ils ont souvent considéré que c'est moins grave quand une femme est battue parce qu'elle est musulmane que si elle est catholique.
Il y a une décision en Allemagne.
Mais moi, je suis français, non, j'ai jamais vu des juges français, non.
Alors là, la jeune femme ou la juge qui était en plateau était là à dire non, mais en fait, vous disiez non, il n'y a aucun juge français qui réagit comme ça, vous fantasmez. Là, c'était en plateau et on l'a laissé parler comme ça.
Oui, c'est une illustration. Enfin, une illustration en plus contradictions qui sont apportées en direct à Caroline Forest quand elle énonce des contre-vérités, en fait.
Et elle continue, vaille que vaille, juste un peu plus tard, sur le plateau de Mots croisés. Donc, Mots croisés, c'était sur France 2. Elle parlait toujours de la justice. Et donc là, c'est un extrait assez court où elle nous parle toujours des juges français qui sont forcément complaisants envers les maris violents musulmans.
J'ai discuté avec des avocats spécialistes des violences conjugales qui me disaient qu'effectivement, dans certaines cours, les magistrats, notamment des magistrats très catholiques et très conservateurs, avaient une tendance à l'exotisme et à considérer qu'un mari musulman qui battait sa femme, c'était un tout petit peu moins grave qu'un mari catholique qui battait sa femme. Donc le deux poids deux mesures, il n'est pas toujours là où on pense.
Oula, ouais, le deux poids deux mesures n'est pas toujours là où on pense, selon Caroline Forest.
Et puis là, on a la même façon de citer ses sources d'une manière extrêmement floue. Donc dans le premier extrait, c'était une avocate. Là, c'est devenu des avocats. Et en fait, on ne sait pas du tout qui c'est. On a l'impression que c'était juste une conversation de comptoir. Et tout d'un coup, c'est érigé en exemple. Ça devient l'archétype qui lui permet d'élaborer une théorie, quoi.
Bah justement, là, tu nous parlais d'un extrait qu'on avait entendu à la télévision. Mais elle a aussi ce genre d'argumentation lors de débats. Et là, il y avait un débat organisé par le Nouvel Observateur, le 26 janvier 2011, qui était à propos des prières de rue. Alors là, c'est les prières de rue à partir de la réaction de deux copains à elle ou deux personnes qu'elle connaît vaguement.
Alors, on va reprendre les choses calmement. On va se désintéresser de Marine Le Pen quelques secondes et j'y retournerai à la fin pour clarifier. Et je finirai par là les différentes positions laïques en présence pour essayer d'y voir clair. Mais une seconde. Au Québec, j'ai aussi rencontré des gens qui étaient partis de France à cause de prières en pleine rue. Ça peut paraître totalement stupide, mais ce n'étaient pas des gens d'extrême droite, ce n'étaient pas des gens racistes. C'était un couple qui, tous les jours, en bas de chez eux, enfin tous les jours, tous les vendredis, la rue était bloquée. Ils ne pouvaient plus passer, ni avec leurs poussettes, ni avec leurs enfants. Et ils ne comprenaient pas pourquoi personne n'était choqué. Ils sont allés voir le préfet, ils sont allés voir le commissariat, ils sont allés voir le maire, et on leur a dit, c'est comme ça. C'est comme ça, personne ne fera rien, vous n'avez qu'à vous habituer. Aux premières propositions d'embauche au Québec, ils sont partis.
Et ouais, ces gens qu'elle connaissait, qui voyaient tous les jours, et puis finalement c'était tous les vendredis, des gens priaient en bas de chez eux, sont partis au Québec pour avoir la paix. Parce que bon, il y en avait marre de tous ces étrangers, il y en avait marre de tous ces étrangers auxquels un des candidats aux élections veut peut-être donner le droit de vote aux élections municipales. Mais vous en faites pas, Caroline Forest, qui parle dans les médias à la radio, qui parle dans les médias à la télé, qui fait des documentaires et qui participe à des journaux comme Le Monde ou Le Nouvel Observateur, écrit aussi des tribunes. Et donc, Céline, tu as un peu analysé pour nous sa tribune sur les droits de vote des étrangers.
Ouais, alors je ne sais pas si c'était une tribune ou si c'était pas juste une de ses chroniques dans Le Monde, en fait. C'est une chronique qui date de décembre 2011, il me semble, sur le droit de vote des étrangers, puisqu'à l'époque, BVA, l'Institut de sondage, avait sorti du coup un résultat de sondage disant que 61% des Français se disent favorables au droit de vote des étrangers aux élections locales. Et donc, c'est l'occasion d'une chronique de Caroline Forest qui commence par dire que c'est une nouvelle plutôt réjouissante, pour finir par dire que bon, quand même, il faut un peu faire attention et que, disons que toute sa chronique, en fait, déroule une argumentation extrêmement spécieuse dans laquelle elle recourt à des artifices rhétoriques, en fait, qui lui sont propres, enfin, qui lui sont propres, qui lui sont pas propres à elle, mais auxquels elle recourt fréquemment. Donc je vais pas tout analyser, je vous renvoie pour l'analyse détaillée, en fait, au site « Les mots sont importants ». Puisque Pierre Thévagnan a analysé cette chronique. Et donc, en fait, elle commence en disant « c'est une nouvelle », donc les 61% de Français qui se disent favorables, « c'est une nouvelle plutôt réjouissante ». Donc, effectivement, on pourrait se dire, elle va dire « bon, voilà, il est temps d'acter ce principe et de donner le droit de vote aux étrangers, aux élections locales ». Et en fait, non. Du coup, elle dit plutôt « non, mais d'abord, on pourrait se demander s'il est judicieux de déconnecter le droit de vote local de la nationalité. Alors, la première raison de s'interroger, donc, elle fait en plus une erreur historique, puisqu'elle dit que la raison pour laquelle ce serait pas très judicieux de faire cette déconnexion, c'est que depuis la Révolution française, en fait, les deux sont liés, ce qui est faux, en fait, hein, puisque la conception de la nation s'est élaborée tout au long du XIXe siècle, et que ça date pas, il n'y a pas une, tout d'un coup... les deux sont pas appariés.
L'esprit républicain n'est pas arrivé d'un coup.
C'est ça. Il n'y a pas tout d'un coup une espèce d'accouplement du droit de vote et de la nationalité au moment de la Révolution française. Et puis le deuxième argument qu'elle donne, c'est alors du coup elle laisse tomber le premier et puis elle commence à se demander traversons-nous une période où la mondialisation est vécue comme heureuse au point de donner l'envie de s'ouvrir et de s'adapter. Ou au contraire, une période où cette adaptation peut être vécue comme une trahison supplémentaire de l'État-nation et donc générer plus de mal que de bien. Tenir compte de ce contexte permet de se faire une idée. Donc ça, c'est la conclusion de sa chronique, qui est donc très, très en demi-teinte, comme on voit. Et c'est vraiment très surprenant et très typique, en fait, d'une façon de procéder où l'argumentation qu'on attendrait est en fait retournée à coup de questions pseudo-rhétoriques. Et alors, il y a un autre procédé auquel elle recourt et que j'aime beaucoup parce qu'elle... que j'aime beaucoup. C'est très intéressant à constater parce qu'en fait, je pense que c'est très efficace rhétoriquement. Elle dit, donc toujours dans cette même chronique, on peut se demander par exemple s'il ne vaut pas mieux faciliter l'accès à la nationalité française plutôt que de fermer cette porte tout en laissant une fenêtre ouverte, le droit de vote aux élections locales. Donc, il faudrait faciliter l'accès à la nationalité française plutôt que d'accorder le droit de vote aux élections locales. Mais c'est... Donc c'est présenté comme une alternative, mais ce n'est pas une alternative. On peut à la fois faciliter l'accès à la nationalité tout en donnant le droit de vote aux élections locales. Et donc ça, c'est quelque chose qu'elle fait, qu'elle fait beaucoup et qu'elle avait fait notamment en 2003 au moment de tout le débat en fait, sur le foulard et le voile, où elle disait... elle disait « Plutôt que d'autoriser le port du voile aux élèves musulmanes au sein des écoles publiques, il fallait redonner un sens ouvert et progressiste à la laïcité en accordant plus de place à l'enseignement de la langue arabe, de l'histoire des religions ou encore de l'histoire des mouvements sociaux. » Donc, comme si autoriser le port du voile aux élèves, ça empêchait de redonner, d'accorder plus de place à l'enseignement en langue arabe, par exemple. Enfin, bon, c'est encore un exemple de fausse alternative qui est super efficace rhétoriquement, en fait.
Ouais. Et puis, ce qui est assez étonnant dans sa manière de réagir, c'est que aussi, lorsque devant elle, quelqu'un lui explique et lui point par point qu'elle s'est trompée, elle a une façon de dire oui, je me suis trompée, c'est pas vraiment moi qui l'ai fait cette erreur, mais j'ai raison d'une façon. D'une façon supérieure, j'ai raison.
J'ai raison sur le reste de la ligne, quoi qu'il en soit.
Et d'ailleurs, puisque là, tu parlais de ses écrits, elle a écrit aussi des bouquins. Et elle était reçue dans François, dans Ce soir ou jamais. Et elle était reçue pour un débat avec Tariq Ramadan, parce qu'elle a écrit un bouquin qui a fait beaucoup parler et qui fait aussi, qui a fait un peu son aura dans les médias, qui s'appelle Frère Tariq. Ce livre, hein, qui est donc... Un bouquin qui s'appelle Frère Tariq, discours, stratégie et méthode de Tariq Ramadan. On parle essentiellement du double discours de Tariq Ramadan. Et donc lors de ce débat, Tariq Ramadan expliquait quelques fausses contre-vérités qu'il y avait dans ce bouquin. Et voilà, justement, on écoute.
Pour vous montrer un fait patent, votre ouvrage, page 111.
Vous citez la frère Tariq, le livre que vous a consacré.
Il a compris le rapport avec Sarkozy.
Laissez-moi finir. Il déstabilisa définitivement Tariq Ramadan en faisant une allusion à sa préface du livre de Zeynab El-Razali. La référence est absolument incompréhensible pour le grand public, mais tout le monde a vu Tariq Ramadan devenir blême. La préface au livre de Zeynab El-Razali, c'est pas vrai, mademoiselle. Il a cité ce livre-là, qui est de Asmad Lambaré. D'accord ?
Je le reconnais alors, complètement.
Ah là, oui, mais vous allez en reconnaître d'autres, mademoiselle.
Vous avez raison.
Vous avez raison. Laissez-moi terminer. Non,
vous allez me laisser terminer. Vous avez totalement raison. Non. Et je le ferai changer. Attendez. Sincèrement, je l'avais pas.
Oui, mais attendez.
Non, mais sincèrement.
Non, mais attendez, j'aime pas ça. Non. Vous savez pourquoi c'est énorme ? Parce que, écoutez, Nicolas Sarkozy, si vous aviez été honnête, Nicolas Sarkozy parle là ici devant 6 millions de personnes et il dit que je préface un livre qui dit qu'on peut battre sa femme. Écoutez ce que dit mademoiselle. À la lumière des versets coraniques et de la tradition du prophète, il apparaît clairement que l'islam n'a jamais préconisé la violence envers les femmes, bien au contraire. Voilà ce que dit la femme sur le livre. Donc ce, si vous aviez été honnête...
Et ça c'est le livre que vous avez préfacé.
Exactement, oui. Si vous aviez été honnête.
Ce livre, il n'a pas tort sur ce passage, là,
attendez.
Il y en a un autre.
Attendez, non, non, ça c'est la conclusion.
Oui, sur la conclusion, d'accord. Mais le passage sur le fait de se faire battre par un homme parce qu'il est croyant, c'est beaucoup moins grave que par un homme qui n'est pas croyant.
Écoutez,
ça, c'est le féminisme islamique que vous enseignez à certaines
militantes. Vous êtes en train de noyer le poisson. Alors, ça, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Oui,
Et ouais, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et là, c'était donc Caroline Fourest qui se faisait démonter quelque peu par Tariq Ramadan. Mais il y a peu, elle s'est fait aussi démonter par la presse tunisienne parce qu'elle a fait, elle avait fait une chronique, un édito ou une chronique ?
Une chronique.
Une chronique. À chaque fois, je
on
me plante.
On se perd, oui.
Je suis un peu à tous ces gens qui font plein de choses dans Le Monde sur la situation en Tunisie. Et il se trouve qu'elle avait aussi encore dit des contre-vérités.
Voilà, elle a été retoquée par le site tunisien qui s'appelle Mag14. Donc, elle a fait plusieurs erreurs, en fait. D'abord, elle a dit... la chronique était écrite. Ça disait « Sous Moncef Marzouki et son parti Ennahda, on risque gros si l'on critique la religion ». Donc, premier reproche, Marzouki n'est pas le chef de Ennahda. Et donc ça, en fait, Caroline Fourest... En fait, l'erreur ne viendrait pas de Fourest, mais du Monde qui aurait voulu réécrire le début. Enfin.
Bah là, en même temps, c'est un peu ce qu'elle disait aussi sur son bouquin, où en fait, il y avait une erreur. Elle allait le faire réparer, mais bon, c'est pas elle.
Voilà. Et alors, deuxième imprécision à laquelle elle n'a pas vraiment répondu, puisque donc la première, elle a répondu que c'était pas elle. C'était, elle disait, une jeune syndicaliste tunisienne est même devenue une icône nationale en décrochant le drapeau des salafistes pour restaurer celui de la Tunisie. Elle s'est fait copieusement tabasser par les intégristes. Alors là, il y a deux problèmes. C'est que elle dit une jeune syndicaliste. En fait, la jeune fille n'est pas syndicaliste et c'est pas elle qui a été agressée. C'est une de ses collègues qui sort finalement indemne de la confrontation. Et puis deuxième élément qui n'est pas indiqué par Caroline Fourest, c'est que en fait, les deux jeunes femmes ont été reçues par Marzouki, qui a déclaré que, qui a condamné la profanation du drapeau national. Donc voilà, enfin c'est un exemple d'imprécision supplémentaire en fait.
Ouais, dans ses bouquins.
On peut trouver quoi dans ses chroniques.
Et alors il y a pas longtemps, elle a sorti un bouquin, je crois que c'était en 2010 ou 2011. Je ne suis plus tout à fait sûre, dans 2010.
Comment tu ne suis pas toutes les publications de Caroline Fourest ?
Non, je ne lis pas tout. Et donc, elle a sorti un bouquin avec Taslima Nasrim, qui est un livre qui s'intitule joliment « Libre de le dire ». Et elle était sur le plateau, sur un plateau de télé, un plateau de télé de TF1, pour une émission nocturne « Field dans ta chambre ». Donc, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, qui était animé par Michel Field. Et il y avait des petits jeunes, des petits lycéens, de Lyon, qui avaient lu le bouquin, qui avaient travaillé sur le sujet et qui posaient des questions. Alors écoutons une question d'une jeune lycéenne qui a lu « Libre de le dire » et donc qui est libre de dire ce qu'elle pense à Caroline Fourest.
Adjère.
Je trouvais que votre livre adoptait une démarche intéressante puisqu'il abordait des thèmes d'actualité brûlants, donc il avait le mérite d'être provocateur, puisqu'il a donc le féminisme, la montée des intégrismes. Donc il avait le mérite d'être franc et provocateur. Le style également était accessible, donc on reconnaît bien votre plume journalistique. Malheureusement, j'ai trouvé qu'il arrivait que le livre verse un peu dans la caricature, c'est-à-dire qu'il amalgamait souvent l'islam et l'intégrisme comme s'ils étaient vraiment essentiellement liés. C'est surtout dans le style de Taslima Nasrin. Je trouvais qu'elle adoptait une sorte de souverain mépris en fait, à l'égard des croyants, comme si le croyant ne pouvait pas être... autre chose que servile, grégaire, idiot, et que seul l'athée pouvait être un esprit, un libre penseur. Et sinon, il y avait un paradoxe qui m'avait un peu heurté. En fait, ce que je me demandais, c'est finalement si vous ne transformiez pas l'humanisme dont vous réclamiez toutes les deux en une sorte d'intégrisme, surtout avec le concept de dictature laïque.
Et quoi, vous...
Non, mais qui est très symptomatique. Je vais vous dire, mademoiselle, en fait, ce qui, moi, me terrifie, c'est que c'est très symptomatique de propos que j'entends dans toute une génération et la génération qui vient. C'est-à-dire des gens plus jeunes que moi et qui ont sur ces sujets des prudences et une terreur à penser librement que je trouve préoccupante parce que ça promet rien de bon. Moi, j'ai des étudiants à Sciences Po et je travaille beaucoup avec eux l'esprit critique et le fait de ne pas avoir peur de juger les opinions et d'assumer un point de vue. Quand vous dites il y a des amalgames entre islam et islamisme, non, justement, puisqu'on est en débat là-dessus avec Taslima et que par définition, c'est qu'on a les idées très claires sur la différence entre islam et islamisme, mais on discute du continuum éventuel qui peut exister entre religion et son utilisation politique à des fins de domination. Et de fait, malheureusement, dans l'histoire du monde, dans l'histoire des idées, on peut dire que cette tentation, elle existe, elle est présente. Mais aujourd'hui, il y a deux mots qui sont les maîtres mots de la pensée, du prêt-à-penser, y compris, donc, et surtout, je crois, de la jeune génération, c'est amalgame et stigmatisation. Et on a réussi à faire croire qu'avoir un jugement sur les valeurs, aujourd'hui, c'était de l'ordre du racisme. Et c'est pour ça qu'on explique dans le chapitre sur l'islamophobie et le mot islamophobie, qu'il y a quand même une grande confusion entre faire croire que critiquer une religion, c'est être raciste envers ses croyants, envers les individus de cette religion, et le racisme qui, Taslima comme moi, est une des choses que l'on combat. Je veux dire que c'est un peu comme si on traitait de communistophobe quelqu'un qui dit « moi, le stalinisme, je pense que c'est quand même la maladie naturelle d'une idéologie marxiste et c'est son continuum ». Non, c'est la fin du débat d'idées. Donc il faut avoir les idées très claires, je crois, aujourd'hui, pour ne pas confondre le débat d'idées avec de la stigmatisation. Il y a des questions très fortes qui sont sur la table, il y a des enjeux très lourds, il y a des gens qui sont menacés pour leur liberté de parole. On ne peut pas y renoncer par peur de la stigmatisation. Ce qu'il faut, par contre, avoir en tête, et ce qu'on essaie de faire quand même dans ce livre, c'est la précision de nos diagnostics, la précision des mots qu'on utilise. Taslima défend, vous avez raison, un point de vue athée très affirmé. Honnêtement, dans le débat actuel, j'ai pas l'impression que la parole athée soit la plus représentée. On entend beaucoup, beaucoup parler du point de vue confessionnel. Ça fait aussi un peu du bien d'avoir une parole athée libre et de la libre pensée. J'ai un point de vue peut-être plus nuancé, mais je défendrai toujours cette liberté de ton, cet athéisme. Et notre point commun, vous avez raison, mademoiselle, qui est l'humanisme. Mais l'humanisme se trouve aussi chez certains croyants, heureusement.
Et ouais, c'était Caroline Fourest. Alors, on vous promet, hein, c'est le dernier extrait, hein, ça suffit. On sait qu'elle a la précision dans la parole, qu'elle est là, qu'elle aime la liberté d'expression. Mais bon, tout le temps.
Tu crois qu'on fait partie de la jeune génération qui a pour mot d'ordre l'amalgame et la stigmatisation ?
Je pense que là, tu es un peu une islamo-gauchiste. Hein. Mais bon. Alors, il y a peu d'ailleurs, elle a fait... Une tribune sur la liberté d'expression. Excusez-moi, on va retirer cette
chose.
Une
chronique sur France Inter.
Il va falloir que j'écrive les chroniques, moi. Je n'aurai pas le prix de la sériale chroniqueuse.
Sériale menteuse, avait dit Pascal Boniface, pour Caroline Fourest. Ouais, elle a fait une chronique sur France Inter sur la liberté d'expression Enfin, la fin de la chronique est quand même assez... Enfin, ça part vraiment en vrille, puisqu'elle finit en... Enfin, elle parle à la fin de... Donc, la chronique, c'est sur les limites à la liberté d'expression. Est-ce qu'il faut limiter la liberté d'expression ou pas ?
Ce qui est amusant, c'est que quand même, il y a eu le procès contre sur l'histoire de la diffusion des caricatures par Charlie Hebdo, où elle défendait, quoi qu'il en soit, les chroniques et la liberté d'expression et la liberté de l'ironie, quand même. C'était son grand truc. Ouais. Même si ces caricatures sont d'un mauvais goût, quoi qu'il en soit, je les défendrai. Je vais même mourir pour les défendre.
Mais... Tout à fait. Non, mais elle est une défenseuse acharnée de la liberté d'expression.
Mais
quand on s'exprime comme elle.
Ah, voilà. Voilà, faut pas s'exprimer contre elle.
Voilà, il faut pas non plus s'exprimer contre elle, évidemment, puisque sinon, un procès vous menace. Et donc, dans cette chronique sur la liberté d'expression, donc, elle parle des différentes limites qu'on peut apporter à la liberté d'expression et qu'on doit ou pas apporter à la liberté d'expression. Et elle parle de la loi sur le génocide arménien. Et elle dit, donc, cette loi n'est pas, comme on l'a entendu pendant des semaines, une énième loi mémorielle, encore moins une loi raciste, donc premier glissement. Donc, comme le prétend le Premier ministre turc. Donc, en gros, si on commence à dire oui, c'est une loi mémorielle, ben limite, en fait, on est en train de dire d'avoir un discours Enfin, il y a un glissement sur. On s'interroge sur la catégorie le gouvernement doit légiférer sur ce que c'est la mémoire, et puis sur le caractère. En fait, c'est si on dit ça, en fait, c'est une loi raciste, quoi. Donc, encore moins une loi raciste, mais tout son contraire, une loi antiraciste qui interdit la contestation de crimes contre l'humanité, que ce soit la Shoah ou le génocide arménien. C'est un signal exactement inverse à celui envoyé par les sociétés qui condamnent le blasphème, mais qui sont aussi le plus souvent celles où s'épanouit le mieux l'incitation à la haine anti-noir, anti-juif, anti-femme et anti-homosexuel.
On se demande de qui elle parle.
Mais de qui parle-t-elle donc ? C'est bien la question. Voilà, et donc, cette chronique, c'est assez... c'est assez illustratif de Caroline Forest qui défend tout le temps, qui brandit la liberté d'expression... surtout quand elle ne s'applique pas à son encontre.
Oui, puisque comme on a commencé notre chronique sur le sujet, si on parlait de ça, c'est aussi que lors des Gabon Awards et lors de son prix sur ses chroniques, justement, elle porte plainte pour injures et diffamation, pour injures aussi envers elle. Et donc il y a Christine Delphi qui a écrit un petit texte et qui a fait une pétition pour être en solidarité, parce qu'en fait c'est une plainte qui est contre les indivisibles et contre tous les gens qui étaient dans le jury des indivisibles. Donc si vous voulez être solidaire avec les indivisibles, vous pouvez googler tout ça et vous arriverez à trouver, je pense, cette petite pétition qui a été signée par plein de gens que nous connaissons plus ou moins. Mais ça n'empêche que je pense qu'il est bien aussi parfois de démonter un peu les gens qui ont quand même une parole super importante et quand même imminente et omnisciente dans les médias. Quoi.
Voilà, et notamment ce qui a été fait comme reproche à juste titre, il me semble, dans cette pétition à Caroline Forest, c'est qu'elle a tout le loisir de s'exprimer dans tous les divers médias dans lesquels elle est chroniqueuse, éditorialiste, experte en tout genre, et que donc elle ferait mieux de défendre... de manifester sa liberté d'expression comme ça plutôt que d'attaquer en justice les indivisibles.
Oui, et puis pour eux, c'est quand même une première. Et il faut rappeler quand même que les indivisibles, leur but, c'est quand même de déconstruire par l'humour et par l'ironie. Donc forcément, c'est ironique. Mais bon, Fadela Amara n'a pas été recherchée sa banane en or alors qu'elle aurait pu, quoi. Elle non plus. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur notre site internet, donc des oreilles loin du front, loldf.org, puisque vous écoutez toujours les oreilles, on avait fait une émission avec eux donc le 2 juin 2010, ça date un peu, hein, mais je pense que les propos peuvent être intéressants et vous pouvez le réécouter. Et puis, on va passer un peu de musique.